Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Veux-tu une San Pellegrino?
Es-tu malade, toi? C'est pas parce que toi, tu conduis. Je t'avais dit aussi d'appeler un taxi. Ça aurait été tellement plus simple. On aurait pu boire comme des trous, comme on le fait d'habitude. Fait qu'écoute, on a vécu à Villemont-Royal pendant 3 ans. On était comme dans une ville-jardin. C'est vraiment au nord de Montréal.
Puis Villermando, c'est la plus vieille maison de Villemont-Royal. Et c'est très spécial parce que tu as vraiment l'impression d'être dans une vieille maison bourgeoise.
Ben, c'est une maison.
Bourgeoise cossue, mais tu sais, c'est un restaurant, mais ça ressemble à une vieille maison. C'est une vieille maison en pierre et tout ça, c'est magnifique.
Donc,
c'est
tu
super
dis ça ressemble à une maison.
Non, mais il y a des restaurants qui ressemblent à des restos. Tu sais, ouais. Tu sens ici la maison, tu vois là, les chambres, t'imagines.
Oui, parce que c'est une maison. On est là parce que c'est un peu gênant à dire, mais on vient de déménager et la maison n'est pas prête pour qu'on puisse recevoir pour l'instant des invités. Alors, ça n'est plus vraiment devine qui vient souper, c'est plutôt devine où on va souper ou alors devine avec qui on va souper.
En attendant, on squatte.
On squatte. Mais tu sais, de toute façon, honnêtement, là, on ne fait pas à manger. Fait que recevoir des gens dans notre maison pour manger de la nourriture de restaurant ou aller au restaurant, ça revient un peu au même. Donc là, plutôt que de faire en sorte que le restaurant vienne chez nous, ben nous, on va dans le restaurant, finalement. Ben, devine qui vient souper avec nous ce soir au restaurant. Alors,
Jean-Marie Lapointe,
oui?
Qui est l'abbé Pierre du Québec.
Oui.
Jean-Marie Lapointe.
L'abbé Thérésa du Québec.
Il a fait une série excellente avec des sans-abri. C'était super bon. Là, il a fait une série sur des gens qui vivent
des
fins de mois difficiles, qui sont sur le bien-être social ou qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Donc, quelqu'un qui a tout le temps le cœur sur la main.
Et Cathy Gauthier, qui a commencé sa carrière et les gens lui ont tout de suite accolé une étiquette de la fille vulgaire, la fille qui est comme un garçon manqué, go, go, go et tout ça. Tu sais, Jean-Marie Lapointe, c'est le bon gars qui fait du bénévolat puis qui aime tout le monde. Puis elle, c'est la fille qui défonce des portes ouvertes.
Donc, on va découvrir le côté vulgaire et grossier de Jean-Marie Lapointe.
Et le côté femme qui fait du bénévolat et qui se sacrifie elle-même, moi, on va voir. Ça va être drôlement intéressant. Mais pendant ce temps-là, moi, je dis comme ma gorge est sèche un peu.
Il faut faire pleurer Cathy Gauthier et il faut faire sacrer Jean-Marie Lapointe. C'est ça qu'il faut faire.
Bon, moi, j'ai soif. Aubergiste. Marie-Josée, peut faire ça, prendre un verre ici, puis ramener le reste de la bouteille en haut.
Vous voulez avoir un verre de vin blanc ou un verre de
oui.
Rouge?
Oui, OK.
Le blanc, jaune.
La Chichiano, l'étiquette blanc. Verte, s'il te plaît. Yessi, ouais. S'il te plaît. Ouais.
La maison date de quelle année ici?
La maison est 1794. C'est la plus ancienne maison de Ville-Mont-Royal.
C'est incroyable.
Ouais,
c'est pour ça que c'est Pierre Deschamps et tout.
Oui. Tout à fait. Ouais. Ici, en ce moment, on est dans le salon, avec le foyer, le salon. Ce soir, vous avez la chance d'être dans une des chambres à coucher. Anciennement, une chambre à coucher.
Est-ce qu'il y a des fantômes à Villermando?
Bien sûr, il y en a. Oui, oui, oui. Ils sont tous prévus de sortir ce soir.
Ah, ben là, j'espère. On va faire une séance de spiritisme.
Oui, c'est ça.
On fera un Ouija board.
Bienvenue.
Merci, amore.
Amore.
Moi, je vais demander à Richard, dorénavant, de toujours s'adresser à moi en disant amore.
C'est ça, c'est beau.
Non, mais en plus, toi, la façon dont tu le dis quand tu parles de ton mari ou quand tu parles à ton mari.
Oui, amore.
Oh. Amore, amore. N'importe quoi, en italien, c'est plus beau.
Oui. Tout est plus beau.
Tu sais, veux-tu que je te dise des mots vulgaires, méchants
en
italien?
Tu peux lire, je sais pas, un mode d'emploi pour monter une table, par exemple, Ikea.
Ouais.
En italien, c'est poétique. C'est super beau, c'est romantique.
Déjà, une table en italien, c'est tavola. Mais déjà, tavola, c'est plus joli que table.
Oui, c'est ça. C'est
d'ailleurs, ça. Montons à la table et attendons Jean-Marie et Cathy.
Je vais les accueillir avec plaisir.
Merci.
chambre à coucher.
Chambre à part.
Chambre à part, c'est ça.
Ah, on est arrivés en même temps.
Hey, man.
Hey, ça va
bonjour.
Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est bien le fun. Cathy Gauthier.
Je suis contente de faire ça avec
cool,
toi.
Hein?
Jean-Marie.
Ben oui.
Tu dis ça comme si c'était une expérience sexuelle ou je sais pas. Là, je suis contente
ça
de faire ça avec
l'être.
Toi pour une première fois.
Ça pourrait être
contente de te voir.
Ça passe de faire une dizaine d'années.
Moi aussi.
Là. Sérieux? Ouais. Il a fallu y avoir quelque
chose.
Allô?
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 Je l'ai poussé.
Ah, ben là. Comment t'as fait pour résister?
Mais il m'a un peu sauvé la vie, Jean-Marie, ça même, je le connais, parce qu'il m'a amené, ben, sauver la vie. Il m'a pas sauvé de la noyade, là, mais je me souviens même plus comment on s'est rencontrés, mais moi, il m'a amené dans un gym qui existe plus maintenant, puis il m'a fait rencontrer Yannick Morin, qui est un des meilleurs coachs que j'ai rencontré de ma vie, puis qui a changé ma vie littéralement. Là,
parce qu'il t'a fait des entraînements?
Ben, des entraînements, puis surtout arrêter de boire, puis j'étais dans une période assez holé, holé!
Ouais. C'est à la même époque où t'es venu remettre des médailles aux défis sportifs.
C'est là qu'on s'est connu.
La semaine vient de se terminer. C'est une espèce de... C'est les Jeux olympiques pour les enfants qui ont des handicaps de partout au Québec. Puis t'as une partie, c'est la semaine, c'est le sport scolaire. Donc, c'est tous les enfants. Il y avait 7000 jeunes des sports scolaires cette semaine. Et t'as aussi l'élite, tu sais, les Chantal Petitclerc de ce monde et les autres, le Diane Roy, c'est aussi l'élite. Donc, c'est la relève qui côtoie l'élite. Mmh. Alors, Cathy était venue remettre des médailles. Puis, mais t'es venue une ou deux fois. Puis à chaque fois que je l'appelais pour revenir, tu pouvais jamais. À un moment donné, quand ça fait 10 fois qu'une fille t'a dit non,
ben
t'en comprends.
Ben oui.
Moi,
tu comprends.
En général, au bout de deux fois, c'est assez. Là,
OK, mais... là, tu parles d'un entraîneur, tout ça. Fait que je sais que Sophie, après ça, après l'émission, elle va me dire dans l'auto, quand
c'est
je vais
qui,
chez
là,
moi.
Ben,
non, elle va dire, Richard, tu devrais prendre un entraîneur.
Ah!
Appelle donc ce gars-là.
Surtout la partie où t'arrêtes de boire.
Oui, oui, oui.
C'est ça qu'elle va dire. Attends donc, un entraîneur.
Mais c'est quand même, c'est pas anodin parce que tu dis qu'il t'a sauvé la vie.
Oui, oui.
Donc, c'est en te présentant ce gars-là, t'avais vraiment comme besoin d'une bouée de sauvetage.
Ben, d'une bouée, peut-être que là, je grossis un peu l'affaire. Là. Faut oublier que je suis une actrice. Je dramatise tout. Non, mais j'étais dans une période où, tu sais, je consommais beaucoup d'alcool, de drogue. Ouais, puis pas juste la drogue que Justin a légalisée. Là. C'était pas elle ma préférée.
OK.
Alors, c'est. Ouais. Fait qu'il était temps que je me remette à penser à moi, puis à mettre ma santé de l'avant, puis voilà, j'ai commencé à m'entraîner, à arrêter de consommer.
Et t'as plus jamais reconsommé depuis?
Oui, j'ai reconsommé depuis, ben, j'ai rencontré mon chum, puis un souper, une première date, pas de vin, t'enlèves pas tes culottes, on va se le dire.
Ben non, fait c'est que... Toi, écoute, ça fait combien de temps que t'as pas goûté une seule goutte d'alcool?
Ah, au moins 12 ans.
Au moins.
J'ai perdu le fil. Mais moi, j'étais pas un consommateur. Cathy parle ouvertement des problèmes qu'elle a déjà eu. Moi, j'ai toujours consommé ses breaks. C'est-à-dire que moi, mon père est alcoolique.
Ouais.
Oui. Moi, il sait c'est qui, Jean Lapointe. Mais ma mère aussi, ça, c'est moins connu. Puis ma mère est morte à 49 ans.
Des suites problèmes. De problèmes d'alcool.
Oui, exactement.
C'est ça?
Alors, tu sais, évidemment, tu as ça comme image, ça te donne un enseignement. Donc, tu te dis, si tu as moindrement les gènes comme tes parents, watch out. Et je les avais. Sauf que, comme toute personne qui souffre d'une addiction, pense qu'elle est en contrôle. Donc, je suis correct. Mais moi, je consommais ces breaks. C'est-à-dire que moi, la semaine, je m'entraînais, j'avais un mode de vie ascétique, vraiment un athlète. Puis la fin de semaine, je me pétais à la face. Mais là, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens parce que c'est on,
c'est
off, on, off.
Ben
là, c'est zéro. Alors, puis j'ai découvert que, avec le sport, la bonne alimentation, c'était comme un non-sens. Puis je voulais pas que ça devienne pire. Alors, je me suis dit, j'ai carrément pris la décision de tout arrêter.
As-tu goûté le vin sans alcool?
Arc. C'est comme le fromage, pas de fromage, là, c'est odieux ben, là, comme goût.
Mais il y a des bonnes bières sans alcool.
Oui, mais à quoi bon? À quoi bon? Prends-toi une petite liqueur.
Je veux juste savoir une chose, Jean-Marie. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu considères que le terme à appliquer à toi, c'est que tu étais alcoolique ou pas?
Ben, je te dirais D majuscule pour dépendant.
OK.
Moi, j'ai cette espèce de bébite à l'intérieur de moi, là. Je dis souvent à la blague, j'ai deux vitesses. J'ai le turbo puis le reculon. Ouais. J'ai rien que, tu sais, ce qui est entre les deux, je l'ai pas
tu
encore appris.
Ouais.
J'essaie d'apprécier l'équilibre puis la douceur, mais c'est plus difficile pour moi. Mmh. C'est, je vis dans l'intensité. Au Québec, souvent, le mot discipline, c'est négatif. C'est comme austère.
On a
tout ça
au
oui, exactement. Tandis que moi, discipline, c'est liberté. Parce que je suis discipliné, je peux faire plein de choses.
Ah ouais.
ça me donne un régime de vie qui est extraordinaire. Ça me donne des ailes, contrairement à ce que les gens pourraient penser.
Je me reconnais.
T'as remplacé un dé par elle.
Je me reconnais dans ce que tu dis. C'est moi. C'est moi
tellement discipliné.
Des frères costumés.
Hey, on va... Ben, rentrez donc. Alors, oui, on vous explique. On va fermer la porte.
On a dû parler de ça dans le cadre de porte.
Ben là, ben, c'est un party québécois. C'est toujours dans le cadre de porte.
Cuisine, dans le cadre de porte.
Mais regarde, regarde, regarde l'exemple de Jean-Marie.
Ouais. Presque 54 dans quelques dodos.
Vrai.
Mais il faut dire que c'est un mode de vie que j'ai depuis très, très, très longtemps.
Ouais. Moi, ça fit pas avec moi. Ça fit pas avec ma tête.
C'est correct
ça
aussi.
Pas, c'est pas comme ça que je suis.
Moi, je me dis...
Vaut
mieux manger un céleri... non, parce que c'est quoi? Un de mes amis disait tout le temps, Rémi Béré, vaut mieux manger une poutine de bonne humeur qu'un céleri en beau tabarnak.
Oui. Non,
parce que c'est sûr que ça change tout aussi dans le reste de ta perspective. Puis faut être heureux, faut être bien, faut assumer ce qu'on mange. Puis oui, il faut bouger, ça, c'est évident.
Puis le rapport avec la nourriture indique beaucoup comment tu es, toi. Ton rapport avec toi-même.
Et toi, t'as déjà été boulimique.
Oui, ben, puis obèse en plus.
Ben,
moi, j'ai dégraissé. Moi aussi, c'est la boxe qui m'a fait dégraisser.
Moi, je t'imagine pas obèse.
Non, mais les gens se souviennent pas de moi à l'époque de l'ancien compte. On parle des années 80 et je pesais au moins 215, 220 livres. À un point tel, Sophie, que les gens me revoient aujourd'hui et disent, toi, je pense que t'avais un frère qui jouait dans l'ancien compte.
Non.
Non, mais c'était moi.
Ah ouais.
Un frère!
Ouais, ouais, ouais. Les gens m'ont vraiment confondu.
Mais
exactement. Ah, c'est ça, ouais.
Comme le 215 livres de muscles.
Non,
ça
non, non,
pas,
non, il y avait du...
Mais là,
tonnerre,
ça
aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je suis à peu près à 166, 168.
Je suis très bon dans le jogging horizontal.
Ah ouais? Mais tu vois, quand t'es couché, là, pis t'es...
Cathy, t'as pas compris?
Oui, oui, je l'ai compris.
Ah, okay.
C'est juste qu'elle arrive.
Ah, non, mais... la trouve pas drôle.
Non, je la garde pas. Je vais la rire tantôt chez moi. C'est une joke take-out.
C'est à l'heure de Terre-Neuve.
Ouais, c'est ça.
Une joke take-out.
C'est une joke take-out, je vais en rire plus tard.
Ah, c'est bon, ça! Une joke take-out.
Bon, on s'assoit, j'ai faim.
Oui,
oui, c'est ça.
Y a-tu des places à signer?
Oui, vous d'un bord, puis nous de l'autre.
OK.
Cet après-midi, en sortant de studio, j'étais donc au coin de Sainte-Catherine et Berry. Il y a une dame qui arrive, mais c'est rempli.
Le parc Émilie Gamelin, je s'en passe.
Et là, il y a une dame qui arrive devant moi et le recherchiste de notre émission. Et qui dit, avez-vous de l'argent? Ça fait 9 jours, j'ai pas dormi. Ça fait 15 jours, j'ai pas mangé. Et là, elle part à pleurer parce qu'elle avait. Et là, elle dit, mais pourquoi vous me jugez? Puis là, avec le recherchiste, on dit, mais non, on ne juge pas, madame. Elle dit, oui, tout le monde me juge. Il n'y a personne qui me considère comme un être humain. Puis là, je me disais, cette femme-là est comme envoyée par Jean-Marie Lapointe pour venir me parler. Là.
Pourquoi?
Ben, je ne sais pas, parce que moi, je me promène dans ce quartier-là depuis des mois. Il n'y a jamais une personne sans abri qui m'a parlé. Puis le jour où je m'en viens te rencontrer, il y a une dame qui vient, et ce n'est pas innocent les mots qu'elle m'a dit. Elle dit, les gens oublient que je suis un être humain. C'est quand même...
C'est des gens maganés dans ce coin-là. Hein, on travaille en face du parc Émilie Gamelin. Puis moi, c'est un coin que je ne fréquentais pas pantoute. Il n'y a rien qui m'amenait là.
T'allais pas chercher en beau, même pas, là.
Non, même pas, là. T'sais, j'allais pas dans ce coin-là. Puis là, tabouin! Qu'il y a des gens qui sont vraiment... C'est de la grosse misère, là.
Il y en a partout, hein. Il y en a sur chaque coin de rue. Moi, j'habite sur le plateau, puis il y en a deux frères, d'ailleurs, coin Saint-Joseph.
Danny, Réal.
Oui, j'ai
connu. Ben
oui.
Mais moi, je les ai reconnus par le biais de son émission. D'ailleurs, félicitations pour ton prix, parce que c'était tellement mérité. J'ai envoyé un message le lendemain pour le féliciter, Jean-Marie, pour ça, parce que c'est tellement une émission nécessaire, je trouve, pour changer la philosophie des gens.
Deux frères!
Ben oui, c'est deux frères, écoute, puis j'ai
deux frères sans abri.
Oui, puis c'est comme, tu sais, je sais pas pourquoi, mais on dirait que tu t'attaches à certains sans-abri, mais ceux-là, c'est comme, c'est eux que j'aide. T'sais. Fait que c'est à eux autres que je donne le plus.
Tu sais,
je peux pas donner à tout le monde à un moment donné, au lieu de donner, tu sais, 2 piastres à plein, eux autres, je leur donne 20 piastres,
chaque fois que tu leur vas, tu leur donnes 20 piastres.
5 piastres ou 10 piastres, mais je leur donne pas une poignée de change dans le fond de ma sacoche. Je leur donne quelque chose de significatif. Puis c'est ça, puis là, il disait qu'il dormait dans un guichet automatique. Puis là, écoute, j'étais chez nous dans mon salon, là, je pleurais là, comme une madeleine. Il regardait à terre, il disait, ça c'est ma chambre, ça c'est comme mon coin, ça c'est le coin à mon frère. Puis là, je t'en parle, puis j'ai des frissons.
Mais OK, mais je veux pas faire le méchant.
Mais tu peux faire le méchant.
Tout le monde se pose cette question-là. On vit dans une société actuellement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Si tu veux travailler là, de la job, il y en a. entre autres dans des restos. On va dire, c'est facile de trouver une job actuellement. Puis là, tu vois des fois des jeunes qui ont leurs deux bras, leurs deux jambes, tout ça, tu te dis, ben, ça ne vous tente pas de travailler.
Il y en a de la job. Il y a de la maladie mentale, beaucoup.
C'est ça, hein?
Souvent, quand tu te ramasses dans la rue, là, c'est parce que tu ne peux pas travailler, même comme plongeur dans un restaurant, bien souvent. Puis malheureusement, les propriétaires ne veulent pas t'engager. Il y a plein de facteurs, tu sais, qui font que tu ne peux pas travailler. T'sais. Ces gens-là ont besoin de se faire tendre la main puis de se faire aider, de se faire écouter.
Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale.
La consommation de drogue.
Omniprésent.
C'est numéro un? C'est problème numéro un?
Moi, j'ai juste une faible expérience de la rue parce qu'on a fait quand même deux, trois séries. Là. Mais c'est que la réalité de l'itinérance, le visage de l'itinérance a changé parce que justement les problématiques de santé mentale ont popé. L'âge a diminué aussi, la moyenne d'âge des gars et des filles qui se ramassent dans la rue. Et l'argent n'a pas suivi, tu le sais. Vous êtes assez au fait de l'actualité en santé mentale. Il n'y a pas des millions et des millions qui sont injectés. Et c'est la grave problématique. Donc, tu sais, pour répondre à ce que tu disais, Richard, tu as raison. Tu sais, on aurait peut-être de la main-d'œuvre potentielle chez ces gens-là, mais il faut qu'ils se soignent avant.
Ah ouais.
Tu sais, ils sont aux prises avec une dépendance beaucoup. Beaucoup de problèmes de dépendance à des substances.
Ils peuvent pas se lever telle heure tous les jours puis aller faire un job fiable de telle heure à telle heure. Ils sont pas là.
En ce moment de leur vie, en ce moment, ils sont pas là. Il n'est pas impossible d'envisager qu'à un moment donné, il va y avoir une transition, là, tu sais. Alors, il y a ça aussi. Puis, tu sais, ce que la série Face à la rue m'a apporté beaucoup, c'est de les aimer et de les prendre là où ils sont, pas là où ils devraient être, même avec leur potentiel. Regardons notre vie. Si, mettons, Cathy, tu perds ta job, tu as eu une fausse couche, tu perds ton enfant, tu as un amoureux qui est là, qui t'aime. Il va te garder près de toi, puis il va t'aider à remonter la pente. Mais si tu n'as pas cet amoureux-là parce que tu as décidé d'avoir cet enfant-là seul ou il t'a laissé pendant ta grossesse, qu'est-ce que tu fais si tu perds l'enfant? Tu peux te désorganiser. Si tu n'as pas le tissu social, il y a ça aussi. Donc, c'est une couple de bad luck qui, comme tu dis, Sophie, peut arriver vite, là.
Non, ça prend deux, trois marches. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais des documentaires comme Jean-Marie a fait, tu peux dire que tu as vraiment changé le regard que les gens ont sur une portion de la société. Donc, tu peux dire, d'une certaine façon, tu as changé la société dans laquelle tu vis.
Bien, je le prends, c'est un beau compliment, puis je le prends avec tout le travail des diffuseurs, l'équipe et tout ça. Et la seule souhait, c'est que ça perdure dans le temps, même si l'émission n'est plus diffusée.
Ouais.
Parce qu'on a bénéficié de deux saisons de sensibilisation, d'information. On a touché l'âme des gens. Et effectivement, on est quand même capable de mesurer qu'il y a eu un impact dans le comportement des gens, dans les prises de conscience. On a changé notre regard. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, quand la série va arrêter son cycle de rediffusion, qui va informer les gens? Parce qu'il va y avoir une nouvelle génération qui va avoir besoin.
C'est vrai, tu parles de la peur des itinérants. Moi, quand je suis arrivée à Montréal en 98...
Mais oui, toi, t'arrivais de l'Abitibi.
En Abitibi, on n'en voit pas des itinérants. T'sais, c'est vraiment très, très rare.
Mais c'est caché.
Mais on les voit pas. En tout cas, moi, je n'avais jamais
vu un
quêteux. J'avais jamais vu ça, tu sais, parce qu'on vit dans une petite communauté qui s'entraide beaucoup. Puis, bref... Je me souviens, je marchais sur Prince Arthur. L'école était sur Saint-Laurent, au coin Prince Arthur à l'époque. Puis j'avais vu un itinérant sur la terre. Puis je disais à mon ami, mon Dieu, j'ai peur, je vais changer de bord. Elle a dit, ben non, elle dit, pourquoi t'as peur? J'ai dit, il va m'attaquer. Elle a dit, passe en forme pour courir après toi, là, lui. Ne t'inquiète pas, là, il va pas t'attaquer. Là. Ouais. Puis là, elle m'avait dit une chose aussi qui m'a vraiment marquée. Elle m'avait dit, c'est le plus dramatique, c'est que là, il te fait peur, mais dans 10 ans, là, tu ne verras même plus.
Mais
je les vois encore, moi. Ça vient me chercher. La pauvreté, il y a quelque chose là-dedans là, qui ça me fait capoter.
Toi, Cathy, t'as pas connu ton papa?
Non.
Non?
Je travaille là-dessus, là, mais il m'a fini par le trouver.
T'es sérieux?
Tu peux le trouver?
Ben oui, je cherche. C'est certain que je cherche. Là, j'ai craché dans le tube Ancestry.
T'es pas sérieuse!
Oui, je l'ai fait. J'étais sûre que j'allais avoir...
Mais explique aux gens, parce que c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. C'est un kit que tu reçois par la poste.
Oui.
National Geographic? C'est ça, non?
Je sais pas c'est qui. C'est mon chum qui m'a commandé ça. Puis c'est un kit, c'est ça. Alors, par la salive, ils peuvent identifier tes origines. Et puis moi, j'étais sûre, parce que moi, je suis une rousse, puis je suis la seule rousse dans ma famille, tu sais. Fait que je me disais, moi, j'ai des origines irlandaises ou anglaises, ou, tu sais, c'est un pays de l'Europe, du nord de l'Europe.
Ouais.
Finalement, ben, j'étais pas loin, je suis norvégienne.
T'es pas sérieux?
Mais 98% française et 2% norvégienne.
Et t'as appris ça il y a combien de temps?
Avec Ancestry.
Oui, oui.
Ça fait, mettons, au mois de novembre.
Ah oui, donc
puis
c'est
là,
tout récent encore.
J'ai découvert une cousine. Puis là, on est en train de créer l'arbre généalogique du côté maternel. Mais là, évidemment, quand ça pop, que c'est des noms que je connais pas, c'est comme là, il y a des Madame Renault là, qui sont comme dans mon arbre généalogique. Alors, c'est du côté de mon père. Mais je vais le trouver parce que mais il y a quelqu'un qui détient ce secret de famille-là, tu sais, dans ma famille, puis qui veut pas me le dire. Fait que ça, c'est ça qui est fâchant aussi.
Mais pourquoi elle veut pas te le dire?
Je sais pas. Chez nous, on est ligoté de l'intérieur, il y a tellement de non-dits. Tu sais, chez nous, on n'a jamais discuté, on n'a jamais de vraies conversations. Chez nous, on parle de météo dans le dos des autres puis de la chronique de Sophie Durocher dans le Journal de Montréal.
Ça, c'est
non,
bon.
Mais c'est vrai.
Mais ce serait mieux de parler de ton père que de ton père.
Dans ma famille, là, c'est ça. C'est Yvon, le dépanneur, acheté le Journal de Montréal.
Mais tu viens de dire...
Dans le Journal de Montréal.
Elle vient d'utiliser une expression hallucinante. On est ligoté
de l'intérieur.
De l'intérieur.
C'est capoté.
Mais il y a beaucoup de familles québécoises où il y a comme ça des secrets de famille, des histoires.
Une T9, là, Marie-La Montagne, c'est de la
ben
petite
oui.
pierre à comparer.
Hey, merci,
mais,
merci.
Mais juste
Cyril.
Que je comprenne, toi, t'as su que t'étais adoptée. C'est quoi ton
non,
histoire?
Je suis pas adoptée, moi.
Non, t'es élevée par ses grands-parents.
Ma mère avait d'avoir 20 ans.
OK.
Puis, ben c'est ça, elle avait 20 ans, puis elle habitait chez ses parents.
OK.
Puis elle, c'est ça, elle m'a eu, puis...
Elle connaissait pas, mais c'était qui le gars qui...
Ben c'est ça, elle dit qu'elle sait pas, mais c'est pas vrai qu'elle sait pas, mais elle dit qu'elle sait pas, mais il y a une raison pour laquelle elle veut pas me le dire, puis ça fait, tu sais, elle m'avait dit, je vais te le dire à 12 ans, puis là, à 12 ans, elle a pas pu me le dire non plus, puis là, elle s'en souvient plus. Mais je sais que c'est impossible qu'elle s'en souvienne plus. Okay. Mais tu sais, il y a des tantes autour de ça qui sont au courant, tout ça, puis...
Mais pourquoi tu veux...
Ma grand-mère veut pas me le dire.
Pourquoi tu veux savoir c'est qui? Pourquoi tu veux rencontrer?
Ben, c'est ça qui me demande ma famille. Pourquoi tu veux savoir ça? Qu'est-ce que ça te donne?
Oui,
qu'est-ce que ça te donne?
Je peux leur répondre que ça vous donne, vous, de me le cacher.
Oui. Ouais. Je dis, quand même que c'est un violeur, un tueur qui est en prison, je veux pas le rencontrer nécessairement. Je veux juste savoir c'est qui pour pouvoir fermer cette case-là dans ma tête qui m'empêche de dormir. Tu sais, j'ai besoin de savoir d'où je viens. Puis ouais, juste voir une photo. Tu sais, je ressens ma personne vraiment dans ma famille. Je suis la seule rousse.
Est-ce qu'on sait quelque part s'il est vivant? Y a-tu des gens, tu penses, qui savent où il serait?
Il est mort en prison. OK, mais il est mort en prison, mais tu sais pas son nom. Non. Mais comment tu fais pour savoir s'il est mort en prison si c'est pas son nom? Tu sais, ça fait pas de sens. Ça a l'air d'un
sketch
de Chicken Swell là, quand il m'en parle.
Ben oui.
OK, il est mort en prison.
Non, c'est ça qu'ils disent.
C'est ça qu'ils me disent pour
Faut qu'il savoir c'est quoi son nom.
C'est peut-être vrai, non?
Ben peut-être, mais même s'il est mort en prison, je veux savoir son nom. Il veut pas me dire son nom. Fait que c'est sûrement quelqu'un que je connais, ce stade-ci. Là. C'est pour ça qu'ils veulent pas me le dire, mais. Excusez-moi, je suis pas émotive, je me suis juste étouffée avec du kale.
Peut-être qu'ils ne veulent pas te dire pour te protéger, non?
Bien, à ce stade-ci, je m'en fous. Ça ne me protège plus. Justement, de ne pas vouloir me dire, ça m'agresse, ça m'agace plus que de savoir la vérité.
Les gens le savent parce que mon père en a parlé un peu. On en a fait un petit coming out dans un livre, mais moi... Ouais. Parler du secret de famille, moi, j'ai su à 18 ans que j'avais des demi-sœurs. Mon père avait déjà eu une femme avant d'être avec ma mère. Et il y a eu 3 filles avec cette femme-là.
Et le jour où tu les as rencontrées?
C'était 12 ans, 13 ans après que mon père m'ait fait l'annonce parce qu'il m'avait dit de garder le silence, qu'il allait l'annoncer à mes sœurs.
Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Ouais. Pourquoi tu ne savais pas?
Ta mère, elle devait savoir,
hein? Oui, mais c'est très nébuleux. J'ai pas l'histoire à 100% comment
mais
ça se fait.
Mais eux, ces enfants-là, avant de rencontrer ta mère,
exactement.
Bon, donc, c'est pas en même temps, là.
Non, non, pas du tout en même temps.
Mais c'était pas une famille officielle.
Non, puis tu sais, c'est comme un mariage un petit peu forcé ou obligé. Ouais. Je veux dire, quand tu fréquentes une femme, elle tombe enceinte dans les années 50, ben, t'as marié, là.
Mais non, c'est ça.
Donc, il a comme été obligé de se marier. Il y a eu 3 filles avec cette dame-là. Et puis ces 3 sœurs-là, que je connais maintenant, on s'est vus, on s'est rencontrés, il y a eu des retrouvailles, il y a eu vraiment une connexion à un moment donné. Mais il y avait un secret de famille, il fallait respecter ça. Alors moi, je viens d'une éducation où tu t'ostines pas avec tes parents.
C'est non, c'est non, là. Je veux dire, moi, ma mère, elle me disait non, je sais pas de négocier, là, comme les enfants d'aujourd'hui, je vais négocier. Il n'y a pas de négociation, là.
C'est ça, on est passé peut-être d'un extrême à l'autre. Oui. Mais je sais pas, peut-être que partout à travers la planète, c'est comme ça. Mais cette idée-là d'avoir des secrets, d'avoir des...
Sous le prétexte de préserver l'innocence et la sécurité de l'enfant, on va lui cacher des affaires.
C'est comme là, Cathy, pas lui dire c'est qui son père, mon Dieu, je trouve ça...
Tu sais, peut-être quand j'avais, 8 ans, c'était pas le temps, là, mais là, à 42 ans, je veux dire,
c'est ce. Mais c'est particulier parce que tu disais tout à l'heure, ta mère t'a dit à 12 ans, je vais te le dire. Mm-hmm. Mais quand on fait une promesse à un enfant, puis que la promesse n'est pas tenue, l'enfant s'en souvient toute sa vie.
Oui, je m'en souviens. Puis, tu sais, j'ai pas une relation extraordinaire, disons, avec ma mère. Pour moi, ma mère, c'est ma grand-mère, celle qui m'a élevée. Mais je suis convaincue que la journée qu'elle va me dire la vérité, ça va changer notre relation. Ah. Puis, on va devenir plus proche. Wow. Puis, ouais.
Mais qu'est-ce qu'elle attend?
Elle est coincée, elle est pognée. C'est comme si elle avait avalé une roche.
Ça, mais ça c'est quoi le gain? Qu'est-ce qu'elle a comme gain à ne pas te le dire?
Je sais pas. Tu sais, quand tu entretiens un mensonge depuis trop longtemps, je pense que tu finis par y croire.
Oui.
Non, t'es obligée d'interrompre deux secondes. Une question de famille.
Passe belle soirée, bye. Tam.
Oh. Si les gens du public pouvaient entendre le ton de voix mielleux de Richard quand il parle à sa fille, c'est extraordinaire.
Mais... Là, je vais te le dire, là. OK, on va expliquer aux gens. Le téléphone vient de sonner, puis c'est la fille de Richard qui appelait. Richard, là, dans ses chroniques, c'est quelqu'un qui a les baguettes en l'air, puis qui est grimpé dans les rideaux, puis qui dénonce des situations sincèrement qu'il trouve inacceptables. Quand il fait ses interventions à LCN, c'est la même chose. Il va dénoncer des choses qui ont besoin d'être dénoncées. Il dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Mais ça n'empêche pas le fait que c'est la personne la plus sensible que je connaisse. Tu sais, j'en ai eu des chums avant Richard, j'en ai pas eu 25, mais j'en ai eu quelques-uns. Puis il n'y en a pas un qui a la sensibilité qu'il a. C'est un cœur sur deux pattes, vraiment, sincèrement.
Moi, je suis étonnée, c'est souvent les gens qui jappent le plus fort qui sont les plus...
Oui!
C'est vrai.
Qui se font des grosses carapaces pour se protéger, justement, de leur sensibilité.
Tout à fait. Mais complètement. Oui. Souvent, là, les gens qui ont l'air durs, là, c'est quand
même... Comme moi, là, moi, je suis la fille la plus sensible de tous les temps. Là, je veux dire.
On est comme des homards, hein, dedans. Ouais. Là, on se fait une grosse carapace pour protéger là-dedans. Là. Ouais. Mais c'est vrai que les gens sensibles se font une carapace. Toi, t'as une carapace, t'as l'air d'une fille tough.
Mais de moins en moins. Au début de ma carrière, là, avec Vache folle, le personnage était tellement gros, tellement grotesque même, plus que gros. Puis,
Tu trouvais lourd ce personnage-là porté ou quoi?
Ben là.
Ça jouait contre toi aussi.
Oui, ça jouait contre moi beaucoup. Puis pourtant, je le réécoute, Vache folle, là, c'était pas si vulgaire que ça. Je veux dire, il y a des humoristes qui
parlent. Mais c'est parce que t'étais la seule à parler comme ça.
Oui, mais là, maintenant, c'est devenu comme pratiquement la norme. Là, j'en vois là, des nouvelles qui commencent. Puis, écoute, ce discours-là, là, c'est correct. Là. Mais je pense que ce qui aidait pas, c'était surtout mon costume. Là. Si j'avais été habillée différemment, peut-être j'aurais été plus crédible. Mais bref, tout ça pour dire que c'est dur de mettre en scène sa vulnérabilité puis sa vraie personnalité, mais c'est ce que je tente le plus de faire là, en vieillissant, en avançant dans ma carrière. Puis mon prochain spectacle, ça va être ça, je pense.
Ah oui, tu vas te montrer plus.
Qui je suis vraiment, parler vraiment moi, de moi, qui je suis là, dans mon fort intérieur, puis parler de sujets plus deep, mais...
Mais on change, on vieillit, puis on n'est plus la personne qu'on était.
Heureusement.
T'as le goût d'être... tu sais, il me semble que je suis moins con aujourd'hui que quand j'étais jeune. Il y a un bon côté à vieillir, non?
Oui.
Trop?
Ben, parce que d'abord, t'es capable de faire des choix, t'es capable de plus ça va, plus tu apprends à te connaître, plus tu sais c'est qui le vrai, tu sais, le vrai Richard Martineau, la vraie Sophie Durocher, la vraie Cathy Gauthier, le vrai Jean-Marie Lapointe.
Et moins tu peux supporter la bullshit. Tu fais du ménage à un moment donné. Il y a des gens que tu voyais puis tu dis pourquoi je vois ces gens-là?
Mais en vieillissant, je pense que ces gens-là, on les détecte moins, donc on les accepte moins dans notre cercle, on les détecte plus vite.
Oui.
Mais moi, sans prétention, je suis tellement chanceuse d'avoir un cercle d'amis aussi riche. C'est fou. J'ai des amis encore du secondaire que je côtoie. Ben oui, j'ai mon amie Valérie qui habite en Abitibi. Son père est décédé il y a un mois, j'étais allée. Je veux dire, j'ai des amis, c'est ça, j'ai plein d'amis, je suis vraiment chanceuse, je suis entourée, mais il faut les entretenir, ces amitiés. Mm-hmm. Moi, chez nous, je fais soit les mercredis fous, les jeudis catastrophes.
Ah, j'ai c'est quoi ça?
Mais c'est des soupers de filles. Puis,
c'est drôle.
Mais moi, j'aime ça, tu sais, il faut entretenir cette amitié-là, c'est comme un couple, là, fait que j'invite mes amis, puis c'est comme à tour de rôle, tu sais, c'est jamais les mêmes, mais ils se connaissent toutes. Puis,
fait que c'est quoi la différence entre un mercredi fou et un jeudi catastrophe? Comme là, on est qu'un mercredi,
ben,
donc
tu vois,
un mercredi
on l'a fait le mardi, puis là, j'ai dit aux filles, là, OK, là, on boit, parce que chez nous, faut comprendre aussi que on boit pas juste une bouteille de vin à quatre. Tu sais, c'est plus quatre bouteilles de vin parfait.
Okay.
Puis ça finit jamais. Fait que là, hier, je leur ai dit, là, à 10h, vous partez, là, demain, tu sais, il faut que je sois en forme. Tout ça, je m'entraînais, puis...
Fait que là,
je dis à 10h, 10h, c'est terminé. Fait que, mettons, à 10h, là, ça, c'est un mercredi doux. À minuit, ça commence à être fou. Puis là, après minuit, là, c'est sûr qu'ils sont pas partis avant 4-6 heures puis ils couchent tous chez nous. Fait que là, ça devient un catastrophe.
Mais ce que je trouve génial, c'est que tu continues à faire ça malgré... Tu sais, que tu fasses ça, mettons, t'es célibataire, que tu fasses ça, t'es une fille mariée, mais que tu fasses ça, maman d'un jeune enfant. Il y a tellement de femmes qui deviennent plates le jour où elles deviennent des moumans.
Ah.
Puis elles sont juste des moumans. Elles sont plus des épouses, elles sont plus des blondes. Elles sont plus des amies, elles sont rien, elles sont juste des mouvements.
Ouais,
ouais.
Mais je reste quand même une maman, une mouvement.
Ouais.
Ah, une mouvement, parce que je suis toujours habillée en mou chez nous, puis j'ai pas de brassière. D'ailleurs, justement, hier, mon amie Christine en arrivant, elle dit bon, j'enlève ma brassière. Puis non, tu sais, moi, j'aime ça faire de la bouffe, j'aime ça faire des grosses tablées. Je viens d'une grosse famille, j'aime ça quand ça jase, j'aime ça quand il y a de l'action, tu sais, chez nous, la télé puis la radio jouent en même temps, puis. Tu sais, j'aime ça entendre ce qui se passe chez le voisin, puis j'aime ça quand il fait du barbecue, puis ça rentre chez nous, puis ça sent bon, tu sais.
Je
serais plateau. Ouais, la grosse
pâte d'à côté. T'es pas italienne dans tes gènes?
Je sais pas.
Non, elle est norvégienne. C'est italien, à 2% de norvégien.
As-tu aimé accoucher?
J'ai-tu aimé accoucher? Je raccoucherai pas par plaisir tantôt, là. Mais ça n'a pas été... Oui, j'ai aimé ça, en fait. Oui. Oui,
Sophie a haï ça.
Moi, j'ai aimé ça parce que c'est une des plus belles journées avec mon chum. On a ri, là.
Ah oui, t'as
vraiment,
à rire.
On a vraiment eu du fun. Parce que là, t'es dans une situation épouvantable, fait que vaut mieux en rire, là.
Ben oui.
Puis moi, c'était long, ça a pris 30 heures. Puis je voulais pas prendre l'épidurale.
Pourquoi tu voulais pas l'épidurale?
Parce que je suis conne, vraiment. Vraiment.
Donc, si t'étais à refaire, tu l'as
pris. Non, je l'ai pris. En fait, c'est l'infirmière. Okay. Parce que là, l'infirmière, je pense qu'elle était tannée de me masser. Puis moi, je voulais pas mettre la jaquette d'hôpital parce que j'étais pas malade. Là. J'avais gardé mon T-shirt.
Mais toi, tu t'es dit, il faut que je vive l'expérience à plein, même avec la douleur, ça fait partie de l'expérience.
Moi, je voulais vivre ça, fille de Caleb style. C'est ça. Puis là, je voulais me prouver que j'étais tough, puis que j'étais capable, puis que, tu sais, il y a tellement de femmes qui ont passé par là, je voulais le vivre pour vrai. Puis là, maintenant, l'infirmière a dit, là, si tu te dilates pas, puis c'est long, puis il va falloir que tu dormes bientôt, parce que je perdais des forces. Fait qu'elle dit... j'ai dit, OK, regarde, je vais la prendre. Elle dit, pourquoi tu veux pas? Je dis, parce que j'ai peur de paralyser, tu sais, la vieille mentalité, là, tu vas paralyser. Puis elle dit, tu paralyseras pas. Elle dit, dans le pire des cas, s'il te rate, tu vas avoir mal à la tête. Mais elle dit, il te ratera pas, là. Allez, fais-le, là, puis tu vas être bien après. Puis effectivement.
Moi, je vais dire quelque chose. La raison pour laquelle j'ai eu un enfant si tard, c'est que j'ai eu mon fils à 42 ans. La raison pour laquelle j'ai eu un enfant si tard, c'est que je ne voulais pas avoir d'enfant. Et la raison pour laquelle je ne voulais pas avoir d'enfant, j'avais une phobie de l'accouchement.
Mm.
J'étais tétanisée. J'avais peur
c'est pour
de
ça que
l'accouchement.
Tu me dis, je ne voulais pas avoir d'enfant parce que je n'avais pas rencontré le bon gars.
Oui, c'est ça, je pensais que j'allais dire.
J'avais peur de l'accouchement.
Ah ben, tabouin.
C'est ce soir que la vérité sort.
Ouais.
Et donc, quand on a décidé avec Richard, finalement, d'avoir un enfant, parce que, en effet, tu étais la bonne personne au bon moment.
Bon.
Là, quand j'ai rencontré le médecin, la première chose que j'ai dit au médecin, j'ai dit, écoutez, si jamais j'arrive à tomber enceinte puis que ça marche et tout ça, je veux juste que vous me promettiez que vous allez me faire l'épidurale et que vous allez me faire dès que c'est légalement possible de le faire. Parce qu'il y a une période, tu ne peux pas comme arriver puis ils te font l'épidurale. Non. Il faut attendre d'être dilaté. Alors, j'ai dit, je veux que vous leviez la main droite et que vous me juriez que dès que c'est humainement et légalement et biologiquement et physiologiquement possible d'avoir l'épidurale, je la veux.
Mm.
Fait que moi, c'est exactement le contraire de toi. Puis donc, j'ai pas aimé mon accouchement, Mais quand on te met l'enfant, quand l'enfant sort, je peux pas, moi, j'ai jamais rien vécu comme ça avant, puis j'ai jamais rien vécu après, puis j'ai jamais fait de drogue, de grosses drogues lourdes, mais je suis sûre qu'il n'y a pas un trip de drogue qui peut être aussi trippant que d'accoucher.
Alors,
c'est,
nous,
non, mais c'est Alien, là.
Ah oui.
Il y a un être humain qui sort d'une fente dans ton corps.
C'est fou.
C'est weird.
Mais là, tu l'expliques avec ta tête, mais nous, les hommes autour de la table, là, si tu pouvais nous expliquer la sensation, l'émotion que ça vous fait, qu'est-ce que c'est de recevoir un enfant qui est le tien sur ton ventre? Ça,
c'est de l'amour.
C'est de l'amour,
c'est juste
en vivant. C'est de l'amour en vivant. C'est de l'amour que tu peux toucher, là.
Incarné. Puis c'était très particulier parce que moi, ils ont pris mon fils et puis ils l'ont mis sur mon ventre. Puis ça faisait quoi, 15 minutes qu'il était né, puis il s'est mis à ramper.
Vers ton sein?
Vers la tétée. Mmh. Et là, ben là, je l'ai pogné, puis je l'ai branché. Mais juste, je m'en souviendrai toute ma vie, là, il se déplaçait.
Et une fois qu'il a trouvé la tétée, ça a pris 3 ans pour le déploguer.
Ah ouais?
Toi, ça te manque pas de pas avoir d'enfant ou c'est-tu quelque chose que tu te dis je passe à côté ou...
Oui.
Je me suis posé ça, mais c'est impossible que quelque chose me manque que j'ai jamais eu. Si j'en avais
très
eu
très bien un, répondu.
Puis que si je l'avais perdu, oui, ça me manquait. Mais j'en ai jamais eu. Mais j'ai un lien facile avec les enfants. J'ai la chance, par le biais du bénévolat, que ce soit peu importe à Sainte-Justine ou au défi sportif Altergo, où j'ai l'occasion d'être avec des enfants, des adolescents, et je crée un lien rapidement parce que la pureté et l'innocence d'un enfant, c'est ce que j'essaie de cultiver aussi en moi. Et il n'y a rien de mieux qu'un jeune qui a une trisomie 21 qui vit dans le moment présent pour te ramener dans le moment présent. Et ça, j'adore ça. Mmh. J'adore le moment présent. Donc, les enfants, c'est les maîtres du moment présent. Alors, moi, je carbure à ça.
T'en as pas eu, ça te tentait pas, c'est pas arrivé. C'est
tout ça. Tu sais, j'ai été... Je viens de me faire une copine. Vous êtes les premiers à qui je l'annonce.
Félicitations.
Publiquement. On se fréquente depuis peu. Ça fait même pas 2 mois.
Wow,
mais on est amoureux. On est vraiment amoureux. Ouais. Et puis, elle a un jeune enfant. Donc, moi, je le sais que je n'ai pas encore rencontré. Alors, je le sais que c'est une question de temps où qu'on va bonder. On va avoir du fun. Parce que moi, j'ai un neveu. En fait, j'en ai deux. J'ai un neveu plus proche. Ma sœur, Anne-Elisabeth, un garçon, dont c'était l'anniversaire hier, et j'ai un autre neveu qui est un petit peu plus vieux. Donc, j'ai quand même des enfants autour de moi, et pour moi, l'enfance, c'est... Tu parlais tantôt de l'amour, quand tu as un enfant qui vient sur ton ventre. Ben moi, je pourrais jamais avoir un enfant sur mon ventre qui sera peut-être de moi, peut-être, je sais pas, sauf que par procuration, je l'ai. Ouais. Alors, tu sais, j'ai eu des relations amoureuses où ma copine de l'époque est tombée enceinte, mais on l'a perdue en cours de route. Et j'ai déjà fréquenté une fille aussi qui, parce que c'était pas une relation stable, c'était une relation un peu on and off, amant-maîtresse et tout, puis elle est tombée enceinte, puis elle a préféré se faire avorter. Elle voulait pas avoir un enfant dans des conditions comme ça.
Okay.
Donc, j'ai eu 2 occasions où j'ai pu avoir un enfant, puis ça s'est pas complété. On n'a pas été jusqu'au bout de la grossesse, involontairement dans certains cas. Donc, je me dis, ben regarde, c'est peut-être pas dans cette vie-ci que j'en aurai. On contrôle pas tout. Puis, tu peux
ça, c'est le Jean-Marie bouddhiste qui parle.
Oui, probablement, mais en même temps, c'est le Jean-Marie qui est assez zen, qui est assez dans le moment présent, qui dit, regarde, présentement, 53 ans, j'en ai pas d'enfant, mais on sait jamais.
Ouais.
Est-ce que je suis malheureux? Non. Est-ce que je passe à côté de quelque chose? C'est sûr que je passe à côté de quelque chose, mais quelqu'un qui a des enfants passe à côté d'une vie que j'ai.
Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est sûr.
Alors, tu sais, j'ai pas de regrets et je n'envie pas ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en ont pas. Je veux dire, je suis pas un envieux. Je veux dire, je vais me réjouir quand j'écoute vos histoires d'enfants.
Et je te dirais autre chose. Moi, je suis super heureuse d'avoir mon enfant. Comme je l'ai dit, le moment de l'accouchement, quand ils te mettent l'enfant sur le... C'est un immense bonheur. J'adore mon fils de tout mon cœur. Mais il y a une chose qui m'énerve dans la société, c'est quand on essaye de faire croire au monde, et en particulier, bien sûr, aux femmes, que... le bonheur passe par le fait d'avoir des enfants. Il faut arrêter de dire ça au monde. Es-tu d'accord avec moi, Cathy?
Je suis en train d'écrire un numéro là-dessus.
Bon.
Moi, j'ai fait une dépression postpartum solide. Là.
T'es sérieux?
Oui, je vais écrire un numéro là-dessus parce que tout le monde dit avoir un enfant, c'est l'affaire la plus merveilleuse au monde. Non.
Non?
Non, vraiment pas. Ma fille, je l'aime plus que tout. Et je suis contente de l'avoir. Je suis contente qu'elle soit là. C'est sûr que si j'avais à le refaire, je le referais, tout ça. Mais c'est parce que ta vie change tellement, là. Je veux dire, moi, mon chum, il travaille, je veux pas dire qu'il est workaholic parce que lui, il dit que non, il est pas workaholic parce que...
On est entre nous, tu penses.
Ouais.
Il est workaholic.
Il est workaholic.
Il est passionné aussi de ce
qu'il fait. Il est passionné, puis il est vraiment bon. Mon chum, c'est une superstar dans ce qu'il fait.
Droit,
là, ouais. Il gagne plein de prix, meilleur avocat au Canada.
Wow!
Oui, dans le New York Times, il est cité. Ouais, il est vraiment, il est super. Là, fait qu'il travaille, puis à ce niveau-là, c'est des dossiers qui, quand il y a des clauses, là, comme demain, il va y avoir une grosse sortie là, dans les médias d'un deal qui se fait. Fait que lui, il travaille là-dessus, il écrit des contrats. Tout ça, c'est lui qui gère tout ça. Fait que c'est sûr que c'est comme un cardiologue. Là, tu peux pas dire non, t'opéreras tout à l'heure. Là, viens avec moi, on écoute les chapitres.
C'est très prenant, donc il n'est pas beaucoup à la
fait
maison.
Fait qu'il n'est pas là. On arrive d'une semaine au Mexique, je ne l'ai pas vu. Je veux dire, on a soupé ensemble deux fois. Moi, j'allais me promener avec la petite. Je veux dire, j'étais pas malheureuse. J'étais au Mexique, là, quand même. Mm. Mais je veux dire, même en vacances, je ne le vois pas. T'sais. Fait que c'est un choix de vie. Là. Mais où je voulais en venir, c'est ça. C'est pour dire que moi, ma vie a terriblement changé du jour au lendemain. Oui. Tu sais, moi, j'avais une carrière, ça roulait mon affaire, tu sais, je faisais de l'argent, ça allait bien, tout ça. Puis là, du jour au lendemain, j'ai plus de show, tu sais, c'est comme... ça aussi, c'est une drogue, là, tu sais, le
tout
public, là, tu sais, c'est enivrant, tout ça. Là. Fait que là, je me retrouve chez nous, je travaille plus, j'ai tout perdu mes cheveux, mes sourcils, j'ai l'air de Jim Corcoran sur la cortisone, tu sais, je suis grosse, je suis toujours en pyjama, ça, c'est... Ouais. Je veux dire, ma vie a complètement changé. Tu sais, si moi, je veux me faire un 5 à 7 avec des amis, il faut que j'organise des mois à l'avance. Il faut que je me trouve une gardienne. Tu sais, je suis pas venue à votre émission avant parce que j'avais pas de gardienne. Puis, tu sais, mon chum, lui, il continue d'aller dans ses 5 à 7 puis dans ses gros parties puis fêter le fait que leur cabinet existe puis qu'ils sont donc bons puis qu'ils sont donc merveilleux. Fait que, mais tu sais, lui, ça n'a rien changé.
Mais donc, c'est un vrai postpartum que t'as
fait. C'est un vrai postpartum. Puis là, je commence doucement à m'en sortir. Là. Mm. Puis, tu sais, l'itinérant, coin Saint-Joseph, Saint-Denis. Je baisse ma fenêtre puis je parle, là, quand je suis à la lumière, je suis contente de pogner sa roule parce qu'on peut échanger des mots. Puis à un moment donné, il m'a dit « Tabarouette, hey, toi, là, t'as pas l'air affilé pas à tout. Hey, » quand un itinérant t'a dit « t'as pas l'air affilé »,
c'est parce que... Et t'es rendu bas dans l'échelle
là,
sociale.
Ouais, là, j'ai fait comme « Hey, boy, là, ouais, là, j'ai... non, c'est vrai que j'ai pas l'air affilé. » Puis au début, je me dis « Ah, c'est les hormones, ça va se replacer. »
Mais c'est une vraie dépression.
Ben oui, c'est une vraie dépression. Puis là,
mais je trouve ça formidable que t'en parles. C'est important d'en parler.
Ouais. As-tu lu le livre de Brooke Shields?
Non.
En tout cas, ben, elle a écrit là-dessus. Brooke Shields, elle a fait un gros postpartum, là, vraiment. Puis elle se sentait coupable parce qu'elle dit « Je suis pas une bonne mère, j'aime pas suffisamment mon enfant. »
Oui, on
enfant.
Est censé être dans l'extase.
Ah, mon enfant devrait me combler totalement. Comment ça se fait? Je me sens pas bien.
Mais c'est ça. Pour moi, c'est ça.
Je m'en occupais quand même. T'sais, j'étais pas mon enfant. Il y en a qui sont dans
un
postpartum,
ils
laissent l'enfant là. Mais tu sais, j'avais de l'aide à la maison. J'ai de l'aide, tu sais, 5 jours/semaine. Puis heureusement, parce que sans aide, ça, je serais pas arrivée. Même si j'ai ma sœur qui est super présente, puis tout mon entourage, mes amis, mais je veux dire, ils ont tous des enfants, elle aussi, puis tout ça. Mais, puis, tu sais, mon chum, lui, me dit, moi, tu sais, je peux pas me lever la nuit. Là. La nuit, il faut que je dorme. Fait, lui, dans le jour, je suis pas là. Fait que là, je te paye une nounou. Fait que là, t'as une nounou, mais toi, profite de ça, tu sais, sors de la maison. Mais j'étais pas capable de sortir de la maison, là. Pour aller où? Aller m'asseoir dans un café, assis, puis pleurer dans ma tasse? Tu sais, je veux dire, j'ai pas envie. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai invité mes amis chez nous. Toutes mes amis étaient au courant. Puis à un moment donné, après 5 mois, là, ils ont fait comme là, faudrait peut-être que tu consultes. Puis c'est Bianca. Bianca Lompré. Tout le monde pense qu'on s'aime pas, mais moi, j'adore Bianca. C'est une de mes très bonnes amies, mais souvent, on a des opinions très divergentes.
Oui,
mais
c'est correct.
Parce que
c'est Bianca qui t'a dit, va consulter.
C'est elle qui m'a donné le nom d'un psychiatre.
Ça a aidé?
Ça a aidé. Mais ça a changé ma vie. Là. Je veux dire, je prends des médicaments maintenant, puis ça fait toute la différence.
Mais écoute, c'est tellement important ce que tu viens de dire. Il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui peut-être pensent à tomber enceinte ou pensent à fonder une famille puis tout ça. Et on se fait tellement dire comme femme, ce que tu disais tout à l'heure à propos de Brooke Shields, un enfant va te combler. Non. Si tu as un vide à l'intérieur, l'enfant, il ne va pas venir remplir le vide.
Non, il va le creuser.
Il va le creuser. Je m'étais tellement fait dire, tellement présenté ça que ça allait être le bout du bout du bout. Mais moi, je l'aimais, ma vie d'avant.
Ah ouais.
C'est comme tout le monde me disait, bon, là, c'est le fun, là, tu travailles, t'as ta vie, mais attends 2 secondes de voir la vie avec un enfant. Mais je l'aime, ma vie avec mon enfant. Mais vous m'avez menti, vous m'avez fait croire que ça allait être mieux que ma vie d'avant. Ben non, c'est une autre vie.
Moi, personne ne m'avait fait croire ça, même que ma grand-mère, là, ma mère, en fait, qui m'a élevée. Là, c'est ma grand-mère, mais que j'appelle maman. Elle, au début, elle me disait, je peux pas croire que tu vas avoir un enfant à 40 ans, tu devrais pas.
Et non, elle me dit,
pense-y, fille. Pense-y, là. Pense-y deux fois. Pasta hey, deux fois fait.
On va prendre une petite pause, bon. Les bonnes pastas.
Ça a l'air bon, ça sent bon.
Donc toi, tu as des petites pâtes sans gluten, des pâtes intégrales, c'est ça pour Jean-Marie?
Il faut bien poivrer.
Ah oui?
Ben oui.
Comme on a dit, il faut bien poivrer.
Bon, si Armando a dit qu'il faut bien poivrer, poivrer ça.
Poivrez-moi ça, monsieur.
Je me demandais tantôt, j'ai pas d'enfant, à 53 ans. Moi, ça fait juste 3 ans là, que j'arrive à être autonome. Parce que les 10 dernières années avant, j'avais pas de contrat, je travaillais pas. J'avais une petite affaire ici et là, mais tu sais, quand je regarde la moyenne de mes T4, les 10 dernières années, c'était en bas de 20 000. Là.
T'es sérieux, Jean-Marie?
Largement en bas de 20 000. J'en dis, je l'ai même montré à mes producteurs, l'équipe de Trinôme, où je fais mon Trinôme et filles avec qui je fais mon émission. Je leur ai montré, on fait une série sur la pauvreté,
ben oui.
Qui s'appelle Fin de mois. Mais je regarde, regardez mes T4. Depuis ma première année de salaire, depuis le début des années 80, quand j'avais 17 ans. Et là, regardez, là, ils regardent les chiffres. Ils regardent, ça, c'est pour la régie des rentes. On voit, parce que j'ai fait comme ça. Ils ont tombé à terre, sont tombés à dire, ben voyons, comment t'as fait pour survivre? Ben,
c'est parce ça. Que le seuil de pauvreté, c'est ça.
J'étais en dessous.
T'étais en dessous.
Ouais, donc, tu connais ça, la pauvreté.
Donc, tu connais.
Oui, mais
tu sais,
je me serrais. Une chance que j'avais un appartement qui était payé, parce que moi, j'avais acheté un appartement il y a très longtemps. J'avais des assises.
Ouais.
Mais tu sais, moi, mon appartement, j'ai...
Quand même, tu payes les taxes.
Des fois, j'avais de la misère à payer l'entretien, les frais de condo. Moi, j'ai eu des amis qui m'ont fronté de l'argent. J'ai eu des proches qui m'ont aidé.
Wow.
Mais tu sais, en même temps, ce que je peux dire ouvertement, c'est qu'il y a des gens dans mon entourage qui n'avaient pas les reins assez solides pour m'aider.
Oui.
Il y en a d'autres, oui. Et des amis, des gens dans le métier, des Michel Charette, des Penelope McQuaid, ma chum Ali Labrec d'un canton de l'Est. Des gens m'ont fronté des milliers de dollars que j'ai tout remboursé. Mais il y a jusqu'à tout récemment. Puis c'est pour ça que je dis, c'est quand même ironique de faire une série sur l'itinérance qui m'a peut-être empêché de tout perdre.
Est-ce que ta fierté, est-ce que tu te sentais cheap, tu te sentais-tu mal de cogner aux portes et dire j'ai besoin d'aide?
J'ai essayé, j'ai tenté ma chance, j'ai appelé des producteurs, j'ai appelé des amis, je leur ai demandé y a-t-il des choses que je pourrais faire, j'ai pu avoir des jobs, puis il n'y avait rien. Tu sais, tu peux pas arriver puis forcer un employeur à Radio-Can, TVA, peu importe, de dire « engagez-moi, tu peux pas ». Alors, comment veux-tu que je me sente, moi, au bout d'une table, dans une date avec une fille, alors que j'ai de la misère à subvenir à mes propres besoins? Je suis pas capable d'aller l'amener au restaurant, tu sais. Alors, tu sais, il y a eu ça pendant 10 ans, j'ai eu de la misère à avoir une vie.
Mais excuse-moi, mais tu as nommé deux noms de gens connus. Tu as nommé Michel Charette et Penelope McQuaid.
Oui.
Honnêtement, je les salue, alors je leur lève mon chapeau. Qui t'ont donné, dis-tu, des milliers de dollars.
Sans une date d'expiration.
C'est ça. En disant, regarde, je t'aime, je pense...
Pas d'intérêt, là.
Pas d'intérêt, puis tu me
rembourseras. Je te donne des sous, tu me rembourseras quand tu pourras.
Exactement.
Le jour où tu fais un chèque à Penelope, puis tu fais un chèque à Michel, que tu regagnes, je le vois sur ta face, tu souris en torpinouche. Le jour où tu regagnes cette fierté-là et que tu peux rembourser tes dettes, t'es fier de toi, tu te regardes dans le miroir, tu te dis « OK, j'ai réussi », mais t'en dois toute une à ces deux personnes-là.
Ah, tellement. Puis moi, à mon tour, de retourner aussi de l'argent, parce qu'il y a plein de contrats que je fais, il y a des conférences que je donne, puis les gens ont de la misère à m'offrir le cachet que mon agent va demander. Mon agent et moi, on dit « Marie-Philippe », et moi, je dis « Ben, regarde, mettons qu'ils veulent me donner 2000 $ pour une conférence ou 3000 $ puis ils sont pas capables, ils aimeraient ça, mais je dis « Ben, donnez-moi ce que vous pouvez ». Puis donnez-moi un reçu d'impôt en retour. Alors moi, je vais faire la moitié. Je vais faire mon chemin parce que je sais c'est quoi pas avoir d'argent.
Et les gens ne savent pas ça, des artistes. Les gens ne savent pas ça.
Non,
ils pensent
c'est un gros problème.
Ils pensent que c'est des galas, les tapis rouges. Je viens de lire une entrevue avec Didier Lucien.
Oui.
Pendant 5 ans, le téléphone n'a pas sonné.
Ah, c'est-tu, oui.
Et j'étais chez moi, là. À un moment donné, ça a arrêté de sonner puis ça a duré 5 ans où le téléphone ne sonnait plus.
Oui.
Moi, là, ça m'angoisse, parce que moi, je suis pigiste, là. Je sais jamais l'année prochaine ce qui va m'arriver. Et j'ai une angoisse totale, là, de ça. Et toi, tu as pris une pause pour ta grossesse en plus, là, fait que...
Mais moi, j'aurais pas fait ça si, tu sais, moi, j'ai travaillé depuis, mettons, 2005, là, je gagne bien ma vie. Mais tu sais, il y a une période aussi, quand je suis sortie de l'école de l'humour, là, j'étais pas sur les galas juste pour rire de même. De toute façon, si tu fais un gala, c'est pas...
T'as dû manger du crab dinner un peu quand même.
Pas un an là-dessus.
Non, c'est ça. Puis du crab dinner, non, ben j'aime pas ça. Mais des cannes de thon, là, j'en ai mangé en tabarouette. Mais J'étais pas malheureuse parce que moi, je viens d'un milieu pauvre. Ouais. Alors, j'ai toujours connu la pauvreté. Puis je pense que j'ai commencé à faire de l'angoisse la journée que j'ai commencé à faire de l'argent parce que là, j'avais peur de perdre tout cet argent-là. Puis, tu sais, moi, depuis que j'ai 12 ans, je travaille. Tu sais, je travaillais dans un restaurant, je faisais la vaisselle, c'était illégal. Puis, je veux dire, je gardais des enfants, j'étais la gardienne la plus en demande dans mon village. Je passais les journaux. Tu sais, j'ai toujours été très, très travaillante. Fait que c'est pour ça aussi d'arrêter de travailler. Puis là, de me faire vivre par mon mari. Ah, ça m'angoisse. Il m'a fait faire une carte de crédit, puis je l'utilise pas.
Non, je l'utilise. Tu es à crédit de lui.
Je l'utilise juste si c'est pour acheter des affaires pour le bébé ou pour la maison, mais si je veux dire, je continue de payer mon hypothèque, puis je continue parce que, tu sais, j'ai fait de l'argent à travers les années quand même, j'en ai de côté. Là,
pas à crédit de lui, parce que s'il peut travailler autant, c'est parce que.
Non, mais tu sais, je veux dire, elle est là. Non, mais moi, je suis gâtée, là, pourrie, là, tu sais, je veux dire. Je paye rien, là, je veux dire, on fait des voyages extraordinaires, j'ai jamais acheté un billet d'avion, tout ce que j'ai à faire, c'est faire ma valise, la traîner, puis je trouve le moyen de chialer pareil, là, tu sais, fait que, mais tu sais, on fait 4 gros voyages par année, tu sais, je suis gâtée pourrie, là, tu sais, mais tu sais, mon chum, il m'a acheté des diamants pour mes 40 ans, puis je les ai ramenés chez Burks, parce que je trouvais que ça avait juste pas de bon sens.
Mais parce que t'as des origines modestes.
C'est tellement gros, je dis, ceux qui ne savent pas que c'est quoi, ils vont penser que ça vient de chez Ardenne. En me regardant, en me disant, eh bon, elle connaissait les bijoux, elle. Mais tu sais, en remettant ça, j'ai pu m'acheter comme plein de bijoux, là, tu sais, fait que j'étais bien plus contente.
C'est drôle.
Mais c'est ça, tu sais, puis je suis pas ce genre-là, moi, j'ai pas besoin d'un collier en diamant, là, je m'en vais pas aux Oscars, je me tiens dans des épichettes de bledin.
C'est très drôle. Mais j'adore le fait, ton choix de mots. T'as pas dit, ah, moi, je viens d'un milieu modeste. Non, t'as dit, nous, on était pauvres.
On était pauvres, mais on n'a jamais manqué de rien parce que ma grand-mère, c'est un génie. On n'a jamais manqué de bouffe, jamais. Même qu'elle était capable, là, on mangeait jamais la même affaire non plus. On mangeait souvent du poisson, là, parce que mon grand-père le pêchait l'hiver, parce que lui, il travaillait pas l'hiver. Fait que, mais tu sais, là, puis elle en faisait tellement qu'on pouvait aller en donner à d'autres gens qui étaient encore plus pauvres que nous dans le village. Tu sais, ma mère, combien de fois qu'elle faisait une batch de galettes à amelasse, puis elle me disait, tiens, Prends ta course, ça veut dire vas-y vite, là, tu sais, vas-y au pas de course.
Prends ta course,
puis va porter ça, tu sais, chez telle famille. Wow. Puis, ouais. Fait que non, ma mère était toujours super généreuse, puis elle faisait des grandes tablées, puis on mangeait pas juste des macaronis,
tu sais. Mais quand tu dis ta mère, tu parles de ta grand-mère.
Ma grand-mère, ouais, c'est ça.
Mais c'est incroyable.
Non,
t'appelles ta grand-mère, ta mère.
Ben, ouais. Puis c'est drôle, mon grand-père, je l'appelle pas. Je dis que c'est mon grand-père. Ça a l'air confus, je vais reformuler. Ma grand-mère, c'est toujours « ma », puis mon grand-père, c'est mon grand-père. Ouais.
C'est grand-papa.
C'est grand-papa, oui.
C'est grand-papa.
Je l'appelle pas pareil, mais je constate...
Mais ta mère, comment tu l'appelles?
Par son prénom.
Par son prénom?
Ça doit tellement
c'est
faire...
C'est pas maman. Ouais.
Imagine, moi, si ma fille m'appelait pas maman, puis qu'elle appelait une autre femme maman, je veux dire...
Je capoterais.
Ouais. Merci.
Non, mais tu vas agir en sorte...
C'était pas du crab dinner, hein? C'est... Du bon spaghetti.
Non, ça, c'était pas du crab dinner.
Des fois, ça t'arrive de dire du mal de gens, de personnes. As-tu un mauvais côté? Dis-moi oui, sinon c'est un saint.
Est-ce que tu sacres des fois?
Ben oui, ben oui.
Tu sacres ça, tabarnak de calice de Saint-Simon. Oui!
Ben mon père, c'est un sacreur, donc c'est sûr qu'on ne retient pas du voisin.
Ben là, pas nécessairement. Des fois, tu pourrais être le contraire de ton père.
Non, ben écoute, dire du mal... C'est qu'avant de le dire, tu l'as pensé. Hein? Donc, est-ce que je pense du mal? Ben oui. Ça m'arrive des fois de trouver du monde crissement épais. Alors, je viens te dire un crissement.
Parfait, j'adore ça.
Mais en même temps, je me dis, bon, j'essaie de me contrôler, j'essaie de me censurer, mais c'est sûr que je l'échappe. Puis des fois, je suis de mauvaise humeur, puis des fois, je suis bougon, puis des fois, je suis paresseux.
Mais
c'est normal.
Mais c'est correct d'être comme ça.
Ben tout à fait. Je suis humain,
ça. On peut pas aimer tout le monde, là, c'est sûr.
Ben non, puis tu sais, on peut pas avoir des affinités avec tout le monde. Mais je suis un gars hyper sensible. Tu sais, comme toi, Richard, je suis hyper sensible, puis j'aime pas aller mal. Alors, je m'essaye tout le temps de bien aller. Et je sais que moi, je suis comme un petit bébé. J'ai besoin de manger à des heures régulières. J'ai besoin de faire des exercices à tous les jours. J'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de méditer. J'ai besoin
d'avoir... Ça, je t'allaite.
Bon, OK.
Peut-être faire un gag, mais ça n'a pas poché partout.
Non, mais tu dis que c'était comme un bébé. Moi, j'ai eu une montée de lait, toi aussi.
Ah ouais, puis j'ai eu une image mentale. Je te dirais pas non.
Ben là, c'est parce que...
Bon!
Moi, je veux juste vous dire, je ne suis pas un mangeur de dessert. Donc, non, pas pour moi.
Ah, tu veux des fruits à la place?
Non plus.
Un petit café, une tisane.
Pas de café. Tisane, oui. Tisane, ça va être parfait.
Avec les gens à l'hôpital.
Mente, oui, s'il vous plaît.
Alors, toi, c'est même pas... Donc, aucun excitant, finalement.
Merci.
Toute ta journée... Ensemble.
Oui, j'en prends pas.
Regarde, je vais faire la psychologie à 5 sous, OK? Là, ça va te faire rire parce que tu sais comment je fonctionne.
Je ris déjà, oui. Tu sais, t'es très fonctionnel, oui.
Toute ta journée, tu luttes contre toi.
Penses-tu?
Tu luttes contre les forces du mal.
Non, mais tu luttes contre toi, contre les forces du mal qui t'habitent. Et là, tu dis, il ne faut pas que je prenne ça parce que sinon, on va partir sur une chive. Il ne faut pas que je prenne ça parce que sinon...
Mais non, mais il est rendu habitué maintenant, ça fait partie.
C'est ça, là, tu luttes contre toi.
Mais tu as raison qu'il y a peut-être eu des étapes dans ma vie. J'ai souffert de troubles alimentaires, je l'ai déjà consommé. Puis effectivement, au début, quand tu veux te désintoxiquer, on dirait que non, il ne faut pas. Mais ça, c'est une énergie épouvantable driver le faut pas. Puis à un moment donné, non.
Aller contre tout ce qui est dans toi, c'est ramener à contre-courant total.
Oui, ça peut paraître comme ça, mais en même temps, il vient à un moment donné, tu fais un choix. C'est parce qu'il ne faut pas, il ne faut pas. Alors, c'est quoi le choix? Bien, je ne veux pas parce que si je vais là, ça me rend malade. Ça ne me rend pas bien.
Ça, j'adore.
Donc,
ça.
C'est un choix. C'est très proactif. C'est pas comme, oh non, ça, c'est pas bon. Non, c'est que c'est ce à quoi je dis non. C'est parce que je dis oui à autre chose et ce à quoi je dis oui est supérieur à ce que j'ai refusé.
OK. C'est moi, j'adore cette philosophie.
On dirait slogan du Parti québécois. Mais oui, changeons le monde ensemble. Fini ça, là. Regarde, c'est toi, je te dis.
À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient.
Mais c'est vrai, il faut donc...
C'est une chanson du Parti québécois.
Il faut que tu mettes l'accent... sur le plaisir que tu as à ne pas faire ce que tu faisais.
Et c'est quoi le gain? Le gain que j'ai à ne pas consommer ci, à ne pas faire ci, il est supérieur. Mm. Donc, c'est pas comme ce que tu disais dans ta psychologie à Saint-Saëns. C'est vrai que ça peut avoir l'air de ça, mais c'est pas l'angle que j'essaie d'avoir parce que c'est restrictif. Tu vis dans la peur, tu vis dans le non, tu vis dans le négatif. Non, bon, c'est pas ça du tout.
Mais il y a une passe quand tu te...
Il y a eu une passe comme ça.
Tu dois passer par là et ça doit être tough.
Ouais. Mais c'est
désintox, au début, c'est difficile.
Ben, tu sais, c'est le principe de la chenille qui devient papillon ou même, tantôt, on a parlé de homard, tantôt, avec ta carapace. Mais tu sais, le homard, là, à un moment donné, il est né au monde gros de même. Il a déjà été un mini homard, hein? Mais à un moment donné, le homard, lui, il doit se débarrasser de sa carapace pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir. Mais ça, c'est un geste de grande confiance et de foi. Parce que quand le homard se libère de sa carapace, il est fucking vulnérable. Mm. Il va se cacher dans les roches, dans les rochers, dans les coraux. Et il fait repousser une nouvelle carapace selon ce qu'il est rendu. Alors moi, je pense que cette métaphore-là, c'est aussi le fait que pour croire dans la vie, il faut se débarrasser de certaines choses. Mmh. Certaines choses qui pouvaient peut-être nous protéger, mais qui ne fonctionnent plus. Mmh. Alors ça, c'est un saut dans le vide, là.
Je t'aime.
Merci. Hallelujah.
C'est vraiment extraordinaire.
Pourquoi?
Parce que je t'écoute parler. Ah, t'es fine. Je te trouve...
Mais c'est ça, laisser tomber les affaires qui ont été utiles à un moment donné dans ta vie.
Exact.
Une béquille qui a été utile une fois dans ta vie.
Un mécanisme.
De défense.
Mais ça, c'est vraiment bright. Mmh. C'est vraiment, c'est vrai.
Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, Richard. Puis des fois, tu ne le reconnais pas. Tu es encore dans un pattern que tu penses qui t'amène encore un réconfort alors que tu es en train de te peinturer dans le coin. Alors, des fois, ça te prend un Jean-Pierre Chiasson, ça te prend une Anne-Élisabeth Lapointe, ça te prend des amis, ça te prend des proches, des thérapeutes qui vont t'aider à, avec amour et bienveillance, il va dire arrête de faire ça. Faut que tu ailles ailleurs. Va chercher de l'aide.
Il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie, c'est qu'il n'y a personne qui n'a pas eu un coup dur dans sa vie. Personne.
Te souviens-tu, récemment, on a regardé un film ensemble et dans le film, il y avait une phrase, une réplique, puis on s'est regardé les deux puis on a dit... Bon, je l'avais même noté.
Ouais.
Je l'avais noté en
là,
disant...
Je m'en souviens plus.
Vivre, c'est tellement dur qu'on a tous besoin d'une forme d'anesthésie.
D'anesthésie. Ah,
je pensais que ça allait venir par on a tous besoin de mourir un jour.
Vive
l'anesthésie, c'est la béquille.
Vivre, l'expérience de vivre est tellement dure parfois qu'on a tous besoin d'une forme d'anesthésie. Mm-hmm. Que ce soit le cul, la job, la bouffe, l'alcool,
le sport,
le jeu, la vitesse.
On a tous notre petite béquille. C'est stressant, vivre. Tu as tout à fait raison de citer cette phrase-là.
Tu te souviens, je l'avais notée.
Ouais.
Je l'ai dans mon ordinateur. Je me dis, c'est une sacrée bonne phrase.
Fait que toi, t'écoutes des films avec l'ordinateur sur tes genoux.
J'écoute des films sur mon ordinateur. Okay. Là, je me dis, ah, c'est bon, ça, cette phrase.
Mais je suis curieuse, toi, Jean-Marie, qu'est-ce qui anesthésie cette... Mais t'as peut-être moins besoin, moi parce maintenant... que si tu médites puis tout ça, t'as peut-être moins
mais
là-dedans.
Non, c'est sa méditation, c'est son bateau dragon.
Mais en fait, c'est la journée où j'ai appris à mettre des mots sur des mots. Quand j'ai mis des MOTS sur des MAUX, quand j'ai appris à faire ça, ça commençait à me libérer d'un poids. Puis moi, Jean-Pierre, pour moi, c'est un confident. C'est comme un deuxième père. Je parle aussi avec mon père, je parle avec des amis. Mais avec Jean-Pierre, c'est comme mon agenda du jour émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui? Alors, tu sais, avec ça, tu n'en as pas vraiment besoin de béquilles. Parce que tes zones d'ombre, parce que ta béquille, c'est souvent pour anesthésier ta zone d'ombre.
Ta béquille, c'est l'amitié, finalement.
C'est t'appelles ça une béquille d'avoir un ami?
Non,
moi,
ça,
je pense
pas...
que c'est une nécessité, c'est un
lien. C'est un soutien.
C'est un soutien. C'est quelqu'un avec qui tu peux ventiler. Puis ça, mais j'arrive, je le fais. Je vous le fais avec vous présentement. Je le fais avec mes amis. Alors, à partir du moment où tu n'as plus d'agenda caché, que tu voyages léger, tu voyages transparent, hey, t'as plus besoin de t'anesthésier.
Moi, je te dirais ce que je te souhaite, Jean-Marie. Je sais pas, t'es au début d'une relation. Je te souhaite que cette fille-là devienne ton confident. Parce que Richard et moi, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Richard, c'est mon meilleur ami. Quand j'ai quelque chose qui se passe, quand c'est une joie, une peine, mon premier réflexe, c'est pas d'appeler mes amis, c'est d'appeler Richard. Et tout à l'heure, Cathy, tu parlais de ton chum. Oui, je sais l'inverse. Et Cathy, tu parlais de toi et ton chum. Vous dites, on est une équipe. C'est la plus belle chose que tu peux vivre dans ta vie. Tu sais, oui, ta relation avec ton enfant, puis tout ça, mais ton enfant, tu fais pas une équipe avec ton enfant. T'en es responsable. Tu le prends là où il est, puis t'essayes de l'amener là où il doit aller. Mais de vivre ça, c'est ce que je te souhaite.
Ben, tu sais quoi? On est en train d'établir les bases de ça. Et puis, je vais citer la belle Nathalie Choquette, notre cantatrice, qui m'avait dit, il y a à peu près 7-8 ans, elle me posait des questions sur ma vie sentimentale. Puis, je disais, il se passait rien, puis j'avais pas de côté.
Elle dit, oh! Voyons donc!
Ça ressemblait à ça. Mais le pire, c'est que j'essayais, je croyais à l'amour, j'étais maladroit, puis finalement, à un moment donné, bien, je me suis calmé, puis j'ai attendu qu'à un moment donné, la bonne personne vienne à moi. Mais ce que Nathalie m'avait dit, elle dit, Jean-Marie, je te souhaite le TCC équilibré. C'est quoi ça, le TCC équilibré? Bien, une relation avec tête, cœur, cul équilibré. Ça vient de Nathalie. Nathalie me dit que ça vient de quelqu'un d'autre, mais moi, je cite Nathalie parce que c'est d'elle que je l'ai entendue. Puis elle a tellement raison. Parce que j'ai été, comme on a tous été dans des relations où il y avait beaucoup d'intellectuels, pas assez de sexe, trop de sexe, pas assez d'amitié, beaucoup d'admiration, mais rien au lit. Alors, c'est ce que tu dis de Richard, puis de ce que Richard dirait
de
toi.
Il n'y a jamais trop de sexe.
Non, c'est un non, parce que par chez nous, moi, j'ai une relation tête-à-tête, je serais bien heureux avec ça.
Il n'y a jamais trop de sexe.
OK, je vais préciser.
Richard, c'est
Bon, ben, on
finit
ça sur un...
Quelle belle soirée! Quel beau souper!
Ben, mais ça, toi, qu'est-ce que tu bois de la tisane?
Une petite tisane, ben, en fait, ben, là, c'est une petite tisane, là, mais normalement, je prendrai pas de stimulant le soir parce qu'à 9h15.
Ben oui. Alors, moi, je lève mon verre à Cathy Gauthier, Jean-Marie Lapointe.
Merci pour la belle invitation.
Tu me chines! As-tu vu, ils ont des verres d'eau, on a des verres d'alcool.
Ouais, team eau, team alcool. On vous laisse deviner quelle équipe est laquelle.
Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.